parole du jour avec le Père Willem.
C'est quand je suis faible que je suis fort. Poussé par son amour pour le Christ, l'apôtre Paul, on arrive à devenir indifférent aux persécutions et aux outrages parce qu'il le rapproche de lui et de ceux qui souffrent. Paul rend sa propre vie conforme à la passion de son maître. Il la vit dans sa propre chair. La faiblesse de la croix n'est pas davantage l'écrasement de ses talents. Bien sûr, le talentueux peut devenir vaniteux. La meilleure parade, c'est de lui rendre la mémoire du don, comme le fait l'apôtre Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Dans l'institution catholique, on a trop souvent constaté que l'on se méfiait du talent, soit parce qu'il mettait en péril une conception plate de l'obéissance, soit qu'il était suspecté de gonfler dangereusement le moi, ce qui revient un peu au cas précédent. Qu'il fallait donc l'ignorer au nom d'une vie spirituelle qui s'épanouissait sitôt obtenu le renoncement à soi. Mais cette défiance questionne. Pourquoi s'inquiéter de ce qui est bon? Pourquoi ne pas vouloir enrichir la création? Pourquoi détruire? Si Dieu et l'homme ne sont qu'un seul et même combat, pourquoi détruire le moi pour exalter Dieu? Cette peur des talents ne serait-elle pas la répétition de mécanismes anciens, autrefois imposés et difficiles à chasser, non tant par sadisme ou par ressentiment, mais parce qu'on ne sait pas faire autrement? Mais le résultat est doublement préjudiciable. Il produit de l'aigreur chez celui qui a été bridé et il appauvrit les initiatives de l'Église et dans l'Église. Qui ne connaît des prêtres ou des religieux talentueux qui auraient fait des évêques de grande qualité, mais qui en étaient éloignés à cause de leur créativité ou de leur forte personnalité, l'initiative originale qu'ils ont prise dans leur paroisse ou dans des institutions de formation? Pourtant, il est bien dit dans la parabole que les talents sont destinés à faire fructifier le bien du maître, c'est-à-dire de Dieu. Les dons, les atouts, les forces de chacun sont eux aussi destinés, d'une façon ou d'une autre, à louer Dieu et à rendre compte de ses merveilles. Ne pas faire confiance aux individus pour qu'ils apprennent en quoi l'exercice de leurs talents dans l'art, par exemple, bénéficie à autrui, c'est rester dans l'ombre de la peur, comme le serviteur de la même parabole qui enterrait le talent, la monnaie, parce qu'il craignait la dureté du maître. S'efforcer de mettre ses talents au service d'autrui est une très belle tâche, toujours à reprendre. Ce peut être l'œuvre d'une vie. Aussi, priver quelqu'un du libre usage de ses talents, de sa parole propre, comme on le voit encore trop souvent dans certaines congrégations religieuses féminines, est aussi dérisoire que de bannir la sexualité au motif qu'elle est dangereuse. Interdire ce qui fait peur ne fait pas grandir. Oui, on ne grandit pas. Il n'y a pas d'épanouissement de l'être. Cela ne fait qu'exposer au retour du refoulé, souvent de l'excès dans le drame. On sous-estime souvent le risque de lecture trop littérale. Bien sûr, comparer la puissance de Dieu au talent pousse à tenir les seconds pour rien. Mais cela ne justifie nullement qu'il faille brider ses talents Au contraire, bien au contraire, pour en revenir à Paul, il y a chez lui ce parfum, oui, d'ivresse que donne l'amour. Cet excès d'une radicalité qui va parfois jusqu'au pire. Et le pire est toujours dans le meilleur. Il y a une autre pseudo-faiblesse qui n'a rien à voir avec celle de Jésus. C'est celle qui résulte d'une lecture trop littérale de certaines consignes de Jésus quand il parle de tendre la joue gauche quand la droite est fouettée ou d'aimer ses ennemis. C'est une invitation à laquelle il faut donner quelques fondations solides. On ne tend pas la joue par un exercice ascétique de volonté, ni par violence envers soi-même, mais bien davantage par la résolution de ses conflits internes, ce qui réduit la peur de l'autre. En effet, un soupçon de paranoïa obscurcit souvent notre regard sur autrui. Quel mal me veut-il celui-là ? Mais qui n'a éprouvé que certaines personnes, a priori qualifiées d'ennemis, pouvaient ne plus l'être à partir du moment où la peur qu'ils inspiraient régressait. Quelle fécondité alors, dans sa propre vie, a transformé ses ennemis en amis ? Pas par une volonté sacrificielle, mais par un vrai travail interne de réconciliation avec soi-même qui permet de voir autrui sans le diaboliser. Au final, n'est-ce donc pas une force que de pouvoir tendre la main à son ennemi? Le malheur est que ces consignes de Jésus, prises à la lettre, ont été, dans les dernières décennies, une raison invoquée par nombre de parents pour ne plus envoyer leurs enfants au catéchisme, mais ceux-ci, en refusant qu'on apprenne à leurs enfants à se soumettre sans condition aux méchants, ne font que détourner d'une religion de la servilité et de la soumission inconditionnelle, attitude que Jésus n'a jamais enseignée. Ce qu'on appelle faiblesse évangélique est parfois une simple expérience de dessaisissement de soi. La rencontre en est une. Quand il m'arrive d'entrer en relation avec quelqu'un d'inconnu, c'est tout à coup le grand livre de la vie qui s'ouvre et dans lequel je vais aller puiser ce qui nous fera nous rencontrer. De quoi va-t-il vouloir parler ? C'est toujours un bonheur, oui, un bonheur, un vrai bonheur, de fouler ensemble un chemin imprévu, toujours en partie inconnu. Vraiment, c'est ainsi que l'on peut concevoir le ministère du prêtre. Découvrir sa faiblesse reste parfois une source de désarroi lorsque cette faiblesse sanctionne des actions auxquelles on croyait. Qui n'a été choqué une fois ou l'autre devant la vanité de ses efforts? Tous, nous voudrions que nos entreprises portent du fruit, mais il arrive souvent que le succès ne soit pas au rendez-vous. Lorsqu'elles tournent à l'échec lors d'un examen ou d'un concours, pour trouver du travail ou dans un projet conjugal, il y a réajustement avec le réel qui est éprouvant. Parfois, le tunnel est long avant de découvrir d'autres formes, d'autres forces en soi. Mais courage, il y a toujours des raisons d'espérer.